Vous écoutez On lit pour vous.
Une alternative locale qui remplace à merveille l'huile d'olive. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 27 mars 2025 dans La Presse. La hausse du prix de l'huile d'olive convainc certains Québécois d'essayer l'huile de caméline, dont le prix est resté stable. Nos ventes ont augmenté de 60 % en 2024 au Québec par rapport à 2023, calcule Chantal Van Linden, présidente de l'Imega qui est derrière la marque signée Caméline. Le prix de l'huile d'olive est assurément responsable en partie de cette hausse significative. Dans le secteur agroalimentaire, on ne voit pas ces chiffres souvent, précise l'entrepreneur à propos de la croissance de ses ventes. Le prix de son huile est resté relativement stable depuis 10 ans. La caméline est une plante oléagineuse qui pousse bien en climat nordique. On en fait de l'huile, comme avec le tournesol, le canola ou le chanvre. On produit de l'huile de caméline au Québec depuis une dizaine d'années, mais l'ingrédient restait le secret de cuisine d'un groupe d'initiés qui la préférait à l'huile d'olive, notamment parce que c'est un produit local. Avec la flambée des prix de l'huile d'olive au cours des 2 dernières années, le groupe commence à prendre de l'ampleur. C'est une alternative locale qui remplace à merveille l'huile d'olive, dit Guillaume Mathieu, cofondateur d'ILO, une firme de consultation qui accompagne les entreprises bioalimentaires d'ici. À partir du moment où le prix devient plus intéressant que l'huile d'olive pour un produit local, je pense que ça peut aider à le faire enfin décoller. Une bouteille de 500 ml d'huile signée Caméline se détaille autour de 18 $, un prix moins élevé que celui d'une bouteille d'huile d'olive de qualité comparable. Les huiles d'olive de qualité se vendent 10 $ de plus, précise Chantal Van Linden. En 2024, Olimega a transformé 600 tonnes de grains, produits sur ses terres en Montérégie et avec des partenaires du Témiscamingue. Autour de 40 % des huiles partent en exportation, surtout vers l'Asie, où le marché de l'alimentation saine est florissant. En Chine notamment, mais aussi en Corée et au Japon, où l'entreprise commercialise également le tourteau, le résidu de grain après extraction de l'huile, comme supplément pour les chevaux de course nippons. Un supplément pour les poules urbaines est aussi vendu sur le marché américain, et les huiles signées Caméline se trouvent également aux États-Unis, chez Whole Foods et sur Amazon. Une huile d'ici. Si les promoteurs de l'huile de caméline vendent ses qualités nutritionnelles et gustatives, la vague d'amour pour l'achat local favorise aussi cette poussée de croissance. Les gens nous disent qu'au niveau environnemental, c'est gagnant, puisque les olives ne poussent pas chez nous et que l'huile fait des milliers de kilomètres avant d'arriver ici, explique Audrey Bouchard, directrice générale de la ferme Tournevent au Lac-Saint-Jean, qui produit plusieurs huiles biologiques. On sent l'engouement local avec ce qui se passe au niveau canado-américain, poursuit-elle. Même si l'huile d'olive est importée d'Europe en grande partie, ce regain porte aussi les huiles. J'entends de plus en plus souvent des gens nous dire qu'ils n'achètent plus d'huile d'olive, qu'ils n'achètent que des huiles locales, dit Audrey Bouchard. Flambée du prix de l'huile d'olive. Ce n'est pas la première fois que le prix de l'huile d'olive est poussé vers le haut parce que les récoltes ont été mauvaises dans les pays producteurs. Bien que le prix de l'huile d'olive ait baissé ces derniers mois, il demeure élevé en raison des sécheresses fréquentes dans certaines parties du globe. On pense aux pays qui bordent la Méditerranée comme la Tunisie, la Grèce ou l'Italie, et même l'Espagne, premier producteur mondial. Ce qui en fait un des aliments les plus contrefaits du monde, alors qu'on y ajoute des huiles moins chères pour faire un mélange. Tournevent vient de doubler ses superficies d'entreposage et ses capacités de pressage à Héberville, afin d'élargir la production et la distribution. L'entreprise a ouvert un économusée des huiliers l'année dernière qui offre un contact direct avec les consommateurs. Tout cela mis ensemble donne une augmentation de 126 % des ventes dans la dernière année pour l'ensemble des huiles biologiques de tournevent, chanvre, lin, caméline et autres. Reste un défi. Comparer le comparable. Car le monde des huiles est vaste et on retrouve des produits de toutes les qualités et de tous les prix. Quand on compare une huile de canola bio pressée à froid et une huile de canola désodorisée, ce n'est pas la même chose, prévient Audrey Bouchard. Janelle Laplante déplore aussi cette confusion. Le propriétaire de la ferme Améroquois, rencontré à l'expo Manger Santé et Vivre Vert la semaine dernière, produit de l'huile de tournesol. Si la demande pour son produit a connu une forte hausse en 2023, elle s'est ensuite résorbée. L'entrepreneur croit que l'achat d'huile de tournesol importée par les grandes chaînes y est pour beaucoup. « Ça coûte beaucoup moins cher, dit-il, et les consommateurs ne font pas la différence. » Le consommateur a 3 secondes pour prendre sa décision devant l'allée des huiles, précise Guillaume Mathieu d'Ilot. Et comme l'huile de caméline québécoise et les autres huiles locales se retrouvent noyées dans une mer d'huile d'olive, elles peuvent passer inaperçues. Lorsque les détaillants vont voir que les bouteilles d'huile d'olive à 30 $ ou 35 $ vont coller sur les tablettes, peut-être qu'ils vont être tentés de donner plus de place à une huile de qualité, plus abordable, dit-il. Selon cet observateur du monde alimentaire, la démocratisation de l'huile de caméline va passer par son utilisation publique par des gens d'influence, des chefs et des chaînes. Quand je parle de chaînes, je parle de restauration familiale, précise Guillaume Mathieu, qui suggère que l'on utilise une huile de caméline, par exemple, avec la salade, et que cela soit écrit sur le menu. C'était Une alternative locale qui remplace à merveille l'huile d'olive, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 27 mars 2025 dans La Presse.
Elle sert les politiciens depuis 50 ans, un texte de Fanny Lévesque, paru le 29 mars 2025 dans La Presse. Lorsque Ginette Brisson a commencé sa carrière au restaurant Le Parlementaire en 1975, Robert Bourassa était premier ministre. Visite royale, fusillade, pandémie, elle a vécu les moments marquants du Québec de l'intérieur. Vous êtes venu rencontrer Ginette? La maître d'hôtel, Diane Poitras, nous accueille au restaurant Le Parlementaire. D'un blanc immaculé, la salle à manger bourdonne en ce mercredi après-midi, même si le service du dîner est terminé depuis 2 bonnes heures. Le personnel aménage les lieux lumineux pour accueillir le caucus caquiste en soirée. Madame Poitras remarque les appareils autour du cou du photographe de La Presse. « Vous allez la photographier ?»« Bonne chance !» lance-t-elle sourire en coin. Ginette Brisson a célébré le 12 mars ses 50 ans de carrière au mythique restaurant de l'Assemblée nationale. C'est François Legault qui a ébruité l'anniversaire sur le réseau X. « Bravo Ginette !» a écrit le premier ministre. Depuis, tout le monde lui en parle. Elle est reconnaissante, mais n'aime pas trop attirer l'attention. Parce que même si elle a vu défiler les personnalités publiques marquantes du Québec, Madame Brisson préfère de loin l'ombre à la lumière. Elle s'est d'ailleurs fait désirer quelques jours avant d'accepter notre invitation. La maître d'hôtel, sa collègue des 19 dernières années, prend aussi part à l'entretien à sa demande. « Sont toutes fins, les élus », nous lance Ginette Brisson en prenant place à table. Lire ici, « Ce n'est pas aujourd'hui que vous apprendrez qui sont les vrais gentils, les capricieux ou que vous aurez droit à des anecdotes savoureuses sur ceux et celles qui ont façonné le Québec. La profession exige une discrétion absolue. « Je ne m'occupe jamais de ça, la politique », assure Madame Brisson, les yeux pétillants. La femme de 72 ans déborde d'énergie. La veille, elle a fait un quart de 12 heures. Ce sera la même chose aujourd'hui. « Ça ne me dérange pas. J'ai du fun, moi, madame. J'aime la vie. » Députée et touriste. Ginette, elle n'a pas d'oreilles, illustre Diane Poitras, assise à ses côtés. Ce qui a fait sa marque, c'est son sourire et sa discrétion. C'est aussi une serveuse de petites attentions, le genre à offrir du lait chaud pour le café, selon sa complice. Madame Brisson avait 22 ans quand elle a été engagée aux parlementaires en 1975. Son patron de l'époque voulait l'essayer pour un mois, rappelle celle qui sert les députés de l'Assemblée nationale depuis un demi-siècle. « J'ai connu 10 premiers ministres. D'abord Bourassa, ensuite l'évêque, énumère-t-elle. Est-ce que c'était intimidant de côtoyer ces hommes politiques? Pas vraiment, explique-t-elle. Moi, je les servais. Comment je vous dirais bien ça? Tout le monde est important pour moi. Tout le monde a une valeur. Il y a des gens qui viennent ici et pour qui c'est peut-être leur seule sortie du mois. » Relativise Madame Brisson. L'hiver, c'est avec les députés. L'été, c'est avec les touristes, résume la serveuse du restaurant ouvert au public. Pour elle, il n'y a pas de différence. Moment fort. Ce qui l'a le plus épaté au cours de sa longue carrière, c'est la visite de la reine Élisabeth II dans la capitale en 1987. Ça, c'était vraiment impressionnant. C'était grandiose, se souvient-elle. La réception avait eu lieu aux parlementaires. Je pense qu'ils avaient passé une journée à tout mesurer avec une corde pour que les verres soient impeccables, relate Madame Brisson. Une grande table avait été dressée, un goûteur testait le repas et les serveurs s'exécutaient comme dans un ballet. On avait une pile de gants blancs en arrière si on tachait les nôtres, raconte-t-elle. Autre moment marquant, le jour où elle enfile un autre type de gants, alors que la pandémie de COVID-19 s'abat sur le Québec en 2020. Madame Brisson fait partie des rares employés qui ont eu accès à M. Legault pendant la première vague, alors que le premier ministre était isolé dans ses bureaux de l'édifice Honoré Mercier. C'était quand il y avait les conférences de presse avec le docteur Arruda. On était 3 équipes à se relayer. Si quelqu'un tombait malade, on pouvait le remplacer. On avait des masques, des gants. On déplaçait un cabaret, on le nettoyait, on allait là. On connaissait la garde rapprochée du premier ministre, relate-t-elle. Ginette Brisson a eu accès à une foule d'événements protocolaires et remises de distinction, ce qui lui a permis de rencontrer des personnalités de tous les horizons, de Céline Dion à Robert Pichet. Elle a aussi assuré le service alors que les premiers ministres décédés étaient exposés en chapelle ardente, comme Bernard Landry en 2018. Un tireur à l'Assemblée. Le 8 mai 1984, Ginette Brisson s'affairait à la préparation d'un buffet lorsque Denis Lortie a fait irruption, lourdement armé, dans l'hôtel du Parlement. Il y avait des réparations dans le restaurant et ça drillait. Moi, je pensais que c'était la drille qui faisait du bruit. « Je m'en suis pas aperçue sur le coup », raconte-t-elle. Quand elle s'est rendue compte qu'il s'agissait de coups de feu, ça a été la panique à bord, alors que tout le monde évacuait en vitesse. L'entrée du parlementaire donne sur les escaliers qui permettent de se rendre au salon bleu où l'ortie est allée. Il y a une des deux portes du restaurant qui était ouverte. Mon maître d'hôtel premier, il se promenait avec une balle tombée sur le sol parce qu'elle était passée tout près. Le tireur n'est pas rentré dans le restaurant. Il a monté les escaliers. Je me rappelle aussi M. Jalbert, le sergent d'armes, qui a négocié avec Denis Lortie. C'était un monsieur très, très gentil, se souvient Mme Brisson. Après 50 ans, j'adore encore mon travail. Aujourd'hui, c'est un peu Mme Brisson qui est devenue une personnalité. D'anciens élus qui reviennent manger prennent toujours de ses nouvelles ou s'étonnent de constater qu'elle reste fidèle au poste. Le jour de notre rendez-vous, un sous-ministre à la retraite a tenu à prendre une photo avec elle. La principale intéressée prend le tout avec modestie. « Quand ça fait 50 ans que tu travailles à la même place, c'est normal, » dit-elle. Elle s'estime privilégiée de servir aux parlementaires dans une aussi belle salle à manger qu'elle compare à un petit château. Ginette Brisson nous dit « Je rentre ici, je suis heureuse, c'est ma famille. » À plusieurs reprises pendant l'entretien, elle lance des fleurs à ses collègues, de la cuisine au personnel de service et à ses supérieurs. Je les adore. Ils sont vraiment importants pour moi. Madame Brisson nous fait part d'ailleurs d'un texte qu'elle avait préparé avant l'entretien pour mettre ses idées en place. « Je finirai votre article avec ça », suggère-t-elle. En voici un résumé. Il est vrai que depuis 50 ans, j'ai eu le privilège de servir des dignitaires, des ministres, des députés, avec qui j'ai établi des liens discrets, courtois et sans prétention. Ce qui me motive le plus, c'est le plaisir de continuer de donner une expérience exclusive à chacun de nos clients. Je me souhaite de vous servir encore longtemps. Venez constater par vous-même et vous comprendrez pourquoi, après 50 ans, j'adore encore mon travail, écrit-elle. Non, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Ginette Brisson. C'était « Elle sert les politiciens depuis 50 ans », un texte de Fanny Lévesque, paru le 29 mars 2025 dans la presse.
Quand les fruits exotiques poussent à Saint-Eustache, un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne, paru le 12 mars 2025 dans Le Devoir. Nous ne marchons que quelques secondes dans un air épais d'humidité avant qu'apparaisse un premier bananier avec une belle grappe de bananes pas encore tout à fait mûre, puis un autre, et ensuite plusieurs arbres remplis d'agrumes ou en fleurs, des papayes, des grenadiers avec de minuscules grenades dont la seule explosion éventuelle en sera une de saveur et ainsi de suite. Et pourtant, nous ne sommes pas dans la jungle tropicale, mais bien au cœur de l'hiver québécois dans l'étonnante pépinière éco-verdure de Saint-Eustache, au nord-ouest de Montréal, qui s'apprête à consacrer une serre de 8750 pieds carrés entièrement à la production surtout de bananes, mais aussi d'autres fruits exotiques. Il y a 3 ans, quand j'ai dit à mon père « Pas, on essaie ça », même là, je ne croyais pas que ça allait fonctionner, c'était expérimental. Mais je me suis dit « Pourquoi pas ?» raconte Myriam Claude, dont le cerveau est lui-même une pépinière d'idées qui se bouscule et que d'aucuns qualifieraient, à tort, de saugrenue. Elle s'est donc mise à la tâche de prouver à son père, Jacques Claude, propriétaire de l'entreprise familiale, que ce qu'elle-même croyait impossible il n'y a pas si longtemps était possible. 1500 bananes en 2 mois. Quand j'ai planté les bananiers, dès qu'ils ont produit des bananes après 6 mois,
la première fleur est sortie dès que je l'ai plantée. Il a compris que ça fonctionnait, puis qu'il fallait miser là-dessus. Deux bananiers, ça ne fait pas beaucoup de bananes, direz-vous. Détrompez-vous. Avec deux plants, j'ai eu 6 grappes de 250 bananes en 2 mois et j'ai tout vendu très vite. Faites le calcul, on parle ici de 1500 bananes en 2 mois avec 2 plants. Maintenant, imaginez la grande serre mentionnée plus haut. Je vais avoir au moins 100 à 150 plants. Ensuite, chaque plant va se diviser en 3 troncs, par exemple, dont chaque plant va me donner 3 grappes. « Il va y en avoir de la banane !» s'exclame Myriam Claude avec un grand sourire. Cette fois, le calcul devient vertigineux. À 100 plants, on parle de 75 000 bananes à chaque récolte et de plus de 110 000 si on monte à 150 plants. « L'intérêt, dit-elle, est plus que palpable. Avec la dernière pub de bananes qu'on a faite, on a touché jusqu'à 145 000 personnes. » On ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est ce qui a fait en sorte que mon père a accepté le fait que je voulais faire une serre de fruits exotiques. Ça lui a prouvé un peu que je connais mon affaire, dit-elle fièrement. Un tout autre fruit. La banane pourrait être vue comme un curieux choix puisqu'il s'agit d'un des fruits les moins chers sur le marché. La banane de Saint-Eustache, elle, se vend 5 $ pour une grappe de 6 bananes, mais... je n'ai même pas le temps de les vendre jaunes. Les gens achètent et disent qu'ils vont les faire mûrir à la maison. La raison de cet engouement va bien au-delà de la volonté, quand même bien exprimée des clients, de favoriser l'achat local, explique Jacques Claude. Ce n'est pas du tout comme les bananes qui viennent du marché. Premièrement, elles ont beaucoup plus de goût et elles sont plus riches. Tu en manges une et tu n'as pas le goût d'en manger une deuxième parce que tu es rassasié. C'est vraiment, vraiment bon. Dès que les gens y ont goûté, ils en veulent d'autres parce que ça ne goûte vraiment pas la même chose. Elle est extrêmement bourrante. Moi, c'est mon déjeuner. Elle me soutient jusqu'à 1 heure, 2 heures. Elles sont denses, renchérit Myriam Claude, en expliquant que la banane importée est transformée par la présence de préservatifs pour lui permettre de se rendre chez nous en bon état. J'ai l'impression que ça goûte le styrofoam, laisse-t-elle tomber sans appel. Myriam Claude carbure à l'innovation. La pépinière qui vend par exemple tout ce qu'il faut pour aménager un bassin d'eau est elle-même remplie de ces bassins à l'intérieur qui produisent l'humidité requise. Et ces bassins sont remplis de koi, des carpes japonaises, qui s'insèrent dans la chaîne alimentaire. Au début, on arrosait normalement et j'ai dit à mon père qu'il faudrait amener une part d'engrais, un fertilisant qui pourrait booster un peu. Et je me suis dit qu'on pourrait essayer avec l'eau des poissons. Je n'ai jamais eu autant de bons résultats. Un arrosage sur 3. Je passe avec ma chaudière dans mes bassins et je vais gratter les roches, ce qui fait qu'il y a de l'algue, les déchets des poissons, du nitrate qui se transforme en azote. L'azote va aider la verdure, renforcer le plant contre les maladies. J'ai eu les meilleurs résultats depuis que je fais ça, et maintenant, je l'utilise pour toutes mes autres sortes d'agrumes. Vous écoutez « Quand les fruits exotiques poussent à Saint-Eustache », un texte de Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne, paru le 12 mars 2025 dans Le Devoir. Des fruits impensables au Québec. Car des sortes d'agrumes, il y en a. Calamondin, citron, citron caviar, citron rose, citron pomme des rosas, lime, lime rouge, key lime, orange, tangerine. En plus des papayes et pommes grenades déjà mentionnées, la jeune femme expérimente aussi avec l'ananas, le fruit de la passion, la goyave, le kumquat, la figue, la mangue. Des noix de coco étaient à produire d'immenses tiges à notre passage et les yeux de Myriam Claude s'illuminent de bonheur lorsqu'elle parle du cacao. Même la modeste banane ne suffit pas. On a des bananes spéciales qui s'en viennent, des bananes bleues turquoises, des bananes roses, des rouges, des grosses comme des courges. Je ne savais même pas que ça existait. Je pousse mes recherches là-dedans parce qu'on veut ça. C'est pour ça que je veux faire les fruits exotiques. C'est que personne n'en fait. Je ne veux pas faire ce que les autres font. C'est trop facile, lance-t-elle en riant de bon cœur. Autodidacte, elle explique que tout ça vient de ma tête. On a accès à plusieurs choses avec nos fournisseurs et plus j'en voyais sur les listes, je voyais du gingembre, je voyais du curcuma, je voyais des plantes poivres et je me disais, voyons, on peut tout faire pousser, il n'y a plus de limite. Et quand je me suis embarqué dans les fruits exotiques, j'ai trouvé que c'était une culture que j'aime. C'est différent et les gens disent, oh mon Dieu, je me sens comme en voyage. Oui, mais c'est un voyage à Saint-Eustache. L'entreprise produira donc assez de fruits exotiques pour réaliser un autre rêve. Je veux une épicerie fine en avant. C'est ce que j'explique à mon père. Je veux amener l'autosuffisance. On veut chauffer avec un système de biomasse pour que tous mes déchets organiques se transforment en gaz naturel pour chauffer mes serres, plutôt que d'utiliser du gaz qu'on retire du sol, ce qui n'est pas nécessairement bon pour notre planète. J'essaie d'arriver à ne faire aucun déchet. Contrer le déclin. Jacques-Claude n'a pas été si difficile à convaincre en voyant les résultats inattendus de sa fille avec les fruits exotiques. La grande serre dont elle prend possession était consacrée aux annuelles et vivaces, mais dans les centres jardins, les pépinières, les ventes ont beaucoup diminué après la pandémie. On a misé, depuis la pandémie, sur la production de plantes d'intérieur, ce qui a bien été, mais le reste n'est plus ce que c'était. La diminution a obligé à faire des choix, explique-t-il. L'histoire pourrait se terminer là, et ce serait déjà beaucoup, si ce n'était du puits sans fond d'initiative qu'est Myriam Claude. Elle prévoit aussi faire pousser du papaw, acimine, un fruit oublié qui pousse en Amérique du Nord jusque dans le sud de l'Ontario. On va commencer à en faire en champ, ici. L'arbre devient mature après 4 ans. C'est un fruit exotique et rustique dont le goût est un mélange de banane, de mangue et de kiwi. Des idées qui poussent comme des champignons. Avant même les bananes et autres fruits, Myriam Claude faisait des tests pour la culture de champignons comestibles à la serre. On va avoir une champignonnière, ici. Tout est prêt. J'ai déjà mon système d'humidité, mon chauffage, et les planètes se sont alignées pour lui donner accès à un boisé grâce au programme InnoParc agricole de la ville de Saint-Eustache. Je vais avoir 3 hectares de boisé pour produire tout ce que je ne peux pas obtenir ici. Elle compte produire en serre des champignons lion-man, crinière de lion et des pleurotes, entre autres. Dans le boisé, des shiitakes, des lactaires et d'autres sortes moins connues. Elle et son père vont même essayer de faire hiverner des bananiers en plein champ. « On veut voir s'ils peuvent rester dehors », explique Jacques-Claude. « On va le couper à ras le sol et on va l'abrier, mais ça va repartir avec une nouvelle pousse. Quand il y a de la neige, c'est bon, ça isole, mais si on a un hiver sans neige et qu'il fait très froid, on oublie ça. On fait des tests. » On pourrait appliquer à Myriam Claude cette célèbre citation de Mark Twain. « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Mais la jeune femme a sa propre version. Comme j'explique tout le temps, la seule limite qu'on a est dans notre tête. C'était « Quand les fruits exotiques poussent à Saint-Eustache », un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne paru le 12 mars 2025 dans Le Devoir.
Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion », 7 de 7. Un texte de Leslie Péan paru le 21 janvier 2025 dans Alter Presse. On ne saurait se faire le chantre des temps perdus avec les pratiques de détournement des biens de l'État, qui empêchent de se procurer les ressources nécessaires au financement de l'éducation, de l'énergie, de la santé, des infrastructures, de l'assainissement, etc. De même, dans la préparation et l'exécution du budget de l'État, les masques entraînent une mauvaise allocation et un gaspillage éhonté des ressources. circonstance aggravante, cet état de choses est la plupart du temps cautionné par les institutions chargées d'assumer la transparence de la passation des marchés, le bon fonctionnement de l'administration publique et une saine utilisation des ressources de l'État. Le message d'espoir envoyé à l'âme haïtienne apparaît comme le pendant conceptuel des défilés de centaines de milliers de manifestants réclamant à corps et à cri un débat collectif de société. Ce message s'inscrit également dans le prolongement du débat de philosophie morale qui éclate au grand jour avec la question « Kotkob Petro-Caribe A. Où se trouve l'argent de Petro-Caribe ?» dont plus de 3 milliards de dollars américains ont été volatilisés de 2008 à 2015. Sans y faire directement allusion, Eddie Cavie invite le lecteur à soupeser et à prendre à rebrousse-poil l'utilisation scandaleuse et désastreuse des 12,21 milliards de dollars américains gérés par la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH, après le séisme du 12 janvier 2010. Abasourdi et renversé par ce tableau, deux spécialistes du développement ont lancé un cri d'indignation qui a trouvé des échos un peu partout. Haïti, where has all the money gone? Où est allé tout l'argent? Se tenant à l'écart des querelles de chapelle, l'auteur invite à l'interrogation d'un grand nombre de choses cachées. Eddie Cavie lance une bouteille à la mer en préconisant la tenue de sérieux débats à tous les niveaux de la société pour faire jaillir la lumière par-delà l'œil et la chose, Platon, ce qui permettra d'aborder et de déconstruire les fausses cohésions sociales. Tout comme les scientifiques étudient la soupe cosmique, il importe d'examiner les faits dissimulés avec un discours qui touche au cœur. Un discours qui vise les facteurs fondamentaux permettant de définir la valeur avant d'aborder le marché et la monnaie. Loin de l'autoritarisme et de l'absolutisme qui bloquent la confiance et le respect des valeurs communes à l'échelle de la société. Comme le souligne le philosophe Jürgen Habermas, ce problème revient à réguler notre existence d'une façon qui soit également bonne pour tous. Un exposé critique des conceptions politiques élitistes des pères fondateurs de la société est présenté. D'une lecture aisée, l'abécédaire proposé se révélera d'une utilité certaine pour un large public qui y trouvera une synthèse aidant à découvrir et à comprendre la situation complexe d'Haïti. Trop souvent, l'information transmise à tel ou tel individu, conduisant à tel ou tel type de réaction, se révèle en fait une apparence et retarde l'émergence de la vérité. Sa contribution, qu'il importe d'approfondir, tourne essentiellement autour de la mauvaise gestion des réseaux de pouvoir des 37 signataires de l'acte de l'indépendance. La politique du pouvoir absolu de l'empereur, du roi, des présidents à vie et des autres qui se succèdent par des scrutins frauduleux bloque tout développement et perpétue l'inexistence d'une grille de valeurs et d'une éthique politique définie collectivement et acceptée de toutes et de tous. L'ego individuel peut toujours se gargariser derrière un Iwa Mondong pour nier toute responsabilité personnelle dans les bonnes actions comme dans les atrocités, dans les réussites comme dans les désastres. Des manières de faire ésotériques, présentées comme des émanations de la religion populaire. L'utilité de cet ouvrage d'Eddie Cavie est de présenter la genèse des signaux faibles, « weak signals », de la dégradation que nous vivons aujourd'hui. Ces signaux faibles étaient là en filigrane dans le refus des cultivateurs appelés « bossal », d'accepter les rapports de production imposés par les généraux propriétaires, accapareurs des terres et autres propriétés abandonnées par les colons à travers leur mainmise sur l'État. Accaparement découlant des rapports de pouvoir dont les origines remontent à la période coloniale. La gestion chaotique de la société haïtienne, reposant sur ces deux rapports de production et de pouvoir comme outil de pilotage, explique sa fragmentation et son épuisement. Ceci en l'absence d'une veille stratégique, soit en l'absence de toute l'écoute anticipative des signaux faibles de son environnement. Au fait, Ces signaux faibles sont détournés par la divination qui sert d'outil de prédiction aux bocaux, guidant les prises de décision des dirigeants politiques. Ces modalités de production du savoir occupent les espaces décisionnels, du chef de section au président de la République. Nous sommes donc retournés aux pratiques divinatoires de l'Antiquité gréco-romaine qui tirent toute la société dans toutes les directions. Haïti, extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, est au final un exercice de méditation amorcé dans le but de corriger des attitudes et des comportements malsains et pernicieux, d'éviter aussi qu'ils ne s'amplifient ni ne se reproduisent. Si l'objectif premier d'Eddie Cavé était de montrer la fin tragique des principaux signataires de l'acte de l'indépendance, il a produit une synthèse de l'Haïti des premiers temps qui a laissé des traces profondes en formatant les consciences. Et cette réflexion vise à empêcher que les comportements scandaleux des mafieux de la génération des bandits légales ne deviennent des règles de décision pour une jeunesse désemparée, en panne de repères et de modèles. C'est là que réside toute la valeur ajoutée de cet appel à la régénérescence, à une prise de conscience destinée à changer le destin d'Haïti pour non seulement assurer sa survie, mais aussi lui offrir de bonnes perspectives. Le temps est venu de crier « bas les masques » à la face de tous ceux et celles qui se font passer pour des démocrates et des progressistes pendant qu'ils ne cessent de fouler aux pieds toutes les positions de principe de la République et de la démocratie. Vous écoutez « Haïti Histoire », la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion », 7 de 7. Un texte de Leslie Péan paru le 21 janvier 2025 dans Alter Presse. En marge du cœur et pour l'esprit. L'exclusion de la majeure partie de la population est d'abord économique. C'est de cette exclusion sur le plan économique que tout part. La paysannerie, qui a constitué 90 % de la population après 1804 et au cours du 19e siècle, a reçu à peine 10 % du revenu national. Cette exclusion a continué au 20e et 21e, étant donné que, de manière générale, la croissance démographique a été supérieure à celle du produit intérieur brut, PIB, per capita. Par exemple, depuis 2003, la croissance démographique de 1,5 % a été supérieure à celle du PIB per capita, moins 0,6 %. De plus, Haïti est l'un des pays les plus inégaux de la Caraïbe avec un fort indice du coefficient de Gini, 46,7, tel que mesuré par la Banque mondiale en 2019. Selon l'International Fund for Agricultural Development, IFAD, les 20 % les plus riches de la population détenant plus de 64 % du revenu total du pays contre moins de 2 % détenus par les 20 % les plus pauvres. L'enquête sur les conditions de vie en Haïti de l'IHSI révèle que les 10 % des revenus les plus élevés constituent 52 % des revenus des ménages. Et si l'on considère les 20 % les plus élevés, cela constitue 68 % des revenus des ménages. L'agriculture en chute libre. L'exclusion représente une forme de terrorisme consistant à trimballer à la capitale 3 ou 4 fois par an, toujours le 22, des paysans pour divider des slogans d'appui aux tyrans du Valier. Ce scénario, repris à la virgule près pendant une décennie, a contribué à grossir, sinon créer des bidonvilles, car nombre de ces paysans qui voyaient la ville pour la première fois ne retournaient pas dans leur patelin et délaissaient l'agriculture. Marvin Chochotte décrit et analyse très bien cela dans sa thèse de doctorat présentée en 2017 à l'Université de Michigan sous le titre « The History of Peasant, Tonton Macoot and the Rise and Fall of the Duvalier Dictatorship in Haiti ». Un texte que nous recommandons aux jeunes chercheurs avides de comprendre la méchanceté et la cruauté du gouvernement des Tontons Macoot en milieu rural où vivait et vit encore plus de la moitié de la population. Nous leur disons de se faire violence et de lire Chochotte. c'est du sur-mesure débarrassé de toute paresse intellectuelle. Point. La mise en scène d'Emmacoute a orchestré une baisse du capital travail, accentuant le sous-investissement chronique dans l'économie rurale, le faible rendement de la terre et une productivité en recul constant. Ces trois facteurs ont détruit les solidarités et engendré un exode rural sans précédent. Depuis 1960, la population urbaine a augmenté pour passer de 20 % à 60 %. À partir de 1980, la contribution de l'agriculture à l'emploi total, qui était de 70 % est tombée à 59 % et a maintenu sa tendance à la baisse. Tandis que chaque actif dans le secteur agricole avait 2,5 personnes à sa charge dans les années 1980, le nombre a augmenté à 3,5 personnes dans la décennie suivante. Enfin, alors qu'au début des années 1960, les produits alimentaires et agricoles représentaient pratiquement moins d'un quart des importations, depuis 1965, ces deux produits constituent la moitié des importations dans le contexte d'une agriculture en chute libre. Cette conjoncture a entraîné une insuffisance de la main-d'œuvre nécessaire pour la mise en valeur des terres agricoles. Les économistes Alix Damius et Robertson-Joseph L'Espérance ont estimé à 20 977 le nombre de travailleurs manquants en 2023 pour l'exploitation normale de toutes les terres agricoles de la commune de la vallée de Jacmel. Ce qui a fait baisser la production de vivres alimentaires tels que le maïs, les haricots, le pois congo, le sorgho, l'igname, le manioc, la patate douce et les bananes. C'est aussi le cas pour la diminution du cheptel animal et du gros bétail, bovins, poules, dindes, lapins, caprins et porcins. On ne saurait perdre de vue le fait que l'exclusion dont souffrent les 90 % de la population en Haïti est avant tout le résultat de l'exclusion de toute la population d'Haïti sans exception pour les besoins de l'accumulation primitive du capital de l'Occident à l'échelle mondiale. Principalement pour se créer une richesse inouïe avec ce qu'on a appelé le passage du milieu, c'est-à-dire la traversée de ce milieu des mers, de ce triangle de nos malheurs entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Cela fait un demi-millénaire, 3 siècles d'esclavage et 2 siècles d'isolement, depuis que les victimes de ce commerce de chair humaine luttent pour se guérir des malheurs dans leur corps et dans leur tête de nègre de toutes les couleurs. Cette lutte n'a pas seulement lieu en Haïti pour les besoins de la révolution industrielle de l'Occident, mais partout où des personnes de bonne volonté refusent de se soumettre à ce projet macabre qui a fait du racisme son arme essentielle pour diviser les exploités et les opprimés. Pour une juste valorisation de Dessalines. Le point de départ consiste à appeler à une conversation intelligente si l'on veut trouver ou retrouver une rhétorique à 1000 lieues de la propagande des tontons macoutes duvaliéristes qui ont voulu masquer, dissimuler, leurs crimes impardonnables sous le masque de Dessalines. Il y a un malentendu qu'on devrait pouvoir relever en peu de temps si les contradicteurs sont de bonne foi. Précision. Il ne s'agit pas de débiner Dessalines à fond la caisse. Un héros ou encore un dirigeant n'a pas que des qualités. Il a aussi des défauts et le fait d'en discuter ne signifie nullement le dénigrer. Toute personne a une vie privée qu'il faut respecter. Dans les relations privées, il existe des habitudes selon les cultures. Tout le monde comprend. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est que le gouvernement remet tous les mois, sans justification, un chèque aux maîtresses des grands du moment. Les affaires privées doivent le rester. L'inscription historique de Dessalines ne doit pas devenir un sujet de querelle. Il est question d'éduquer la jeunesse pour qu'elle ne s'égare pas dans des luttes de groupuscules. Il n'y a pas mieux que l'industriel, écrivain, homme politique libéral, pour parler de Dessalines. Il se devait de dire dans l'édition du 10 mai 1873 du journal Le Civilisateur: « Dessalines, oui, était un demi-dieu pour la cause de notre indépendance. Mais après le triomphe, mieux eût valu un ouvrier charron pour nous administrer, car après la hache qui taille, il faut l'outil de précision qui ajuste. Connaissant le poids, le grain et la profondeur de pensée d'Edmond Paul, il est légitime de se demander s'il aurait eu la même opinion s'il avait su que Dessalines avait trahi Toussaint Louverture. Le ressentiment de Jean-Jacques Dessalines pour Toussaint Louverture semble être dû au fait qu'il a été l'esclave de la fille de ce dernier. Jean-Jacques ne reçut le nom Dessalines que suite au mariage célébré le 4 octobre 1787 de la fille de Toussaint avec le noir libre Janvier dit de Salines, Janvier Dessalines. Marie-Marthe Toussaint amena avec elle l'esclave Jean-Jacques qui prit le nom de son nouveau maître Dessalines. En témoigne l'acte de mariage consigné dans les registres paroissiaux du Cap et signé de Janvier Dessalines, de quatre autres noirs libres du Cap et du curé célébrant. Les recherches de l'historien Jacques de Cona aux Archives nationales outre-mer, à Nome, de France, confirment ces faits. D'autres historiens tels que Philippe Girard démontrent cette hypothèse qui n'est nullement d'école. Tous les généraux de l'armée de l'ouverture passent dans le camp des Français. Dessalines joue même un rôle important dans la capture de Toussaint. La trahison de Dessalines est documentée par Isaac Louverture, fils de Toussaint Louverture, d'une part, et par des officiers français, d'autre part. Nous en avons discuté antérieurement dans un texte intitulé « Haïti, mentalité d'esclave et régime politico-économique », en présentant les preuves dans le but de confondre le courant qui refuse de savoir. Vous écoutez « Haïti Histoire », la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 7 de 7 », un texte de Leslie Péan paru le 21 janvier 2025 dans Alter Press. Selon Pamphile de la Croix, Dessalines était le propriétaire de 32 sucreries et chacune lui rapportait 100 000 francs de rente. Heinel et Heinel précisent que Dessalines est devenu propriétaire fermier dès 1801 de 33 plantations de canne à sucre avec des revenus annuels de plus de 300 000 francs. Dessalines est donc devenu grand propriétaire terrien et pour faire fructifier ses terres, il a employé le travail forcé connu alors sous le nom de caporalisme agraire, comme le fit avant lui Toussaint Louverture. C'est le cas pour le président Pétion qui, lui aussi, s'est emparé de terres, entre autres là où Pétionville est construite aujourd'hui. Il est grand temps de mettre fin à cette habitude consistant à remodeler les pères fondateurs chacun à sa façon, chacun selon ses fantasmes. L'appropriation des terres laissées par les colons français en devenant fermiers à vie de l'État vient de là. Cette pratique n'est pas particulière à Dessalines. Tous les autres généraux ont fait de même, contraignant les paysans à travailler dans leurs champs dans le cadre du caporalisme agraire. Telle est la pure vérité. Selon Claude Auguste, tous les officiers supérieurs se font octroyer de belles plantations dans l'aire de leur commandement. Christophe, la plantation Saint-Michel près de Cartier-Morin, Clairvaux, la plantation Foch à Jean Rabel, Adrien Zamor, la plantation Tabois dans la plaine du Nord, Christophe Mornay, la plantation Lacroix à la petite rivière de l'Artibonite, Jean-Baptiste Rousselot, dit Dommage, une plantation à l'entrée de Jérémie. On prétend qu'il y a eu silence sur Dessalines pendant 40 ans après le 17 octobre 1806. Ainsi, c'est ignorer la proclamation de Christophe du 1er janvier 1807 dans laquelle il dit « Ils ont osé reprocher au malheureux Dessalines les propres crimes qu'ils lui avaient suggérés et dont ils ont été les ardents instigateurs. Après l'avoir harcelé des plus vives sollicitations et qu'il eût cédé à leurs instances atroces, ne l'ont-ils pas accusé d'avoir ordonné la mort de Thomas Tua, qu'ils avaient provoqué avec tant d'acharnement? Dessalines était paisible aux gonaïves. Ils forgèrent une fausse correspondance entre ce négociant et Ferrand, à l'aide de laquelle ils le dénoncèrent comme traître pour pouvoir, par sa mort, obtenir le pillage de ses biens. Cette proclamation de Christophe est publiée dans la Gazette royale d'Haïti, numéro 5, datée du 4 juin 1807. Pas un mot n'est soufflé là-dessus. Pas par hasard. En juillet 1818, c'est le baron et major général Dessalines, fils de l'empereur Dessalines, qui est délégué à Port-au-Prince pour une ultime tentative de négociation avec la République. Encore une fois, rien de cela n'est mentionné. Pas non plus par hasard. Cette musique douce-amère ne fait que redonner vie à une ignorance enseignée par des professeurs en jachère. Bien des gens de bonne volonté ont été ainsi trompés. Il est faux d'affirmer qu'il y a eu silence sur Dessalines pendant 40 ans. Il suffit de consulter les journaux du Royaume du Nord de Christophe et ceux de la République de l'Ouest de Pétion pour s'en rendre compte. Ajoutons notre grain de sel, au risque de faire perdre à certains le chemin d'une identité qui les tenaille. Un combat qui dure depuis plus de 2 siècles contre des structures qui existent encore. Dès les premiers jours de 1804, avant même que la nouvelle de l'assassinat de Dessalines soit communiquée par le général de division Pétion au général en chef Christophe, Haïti a vécu l'enfer des luttes de pouvoir entre les pères fondateurs. Les victimes de machinations ne se comptent plus. Il n'existe aucune estime ni affection entre les 37 signataires de l'acte de l'indépendance du 1er janvier. Ce ne sont pas de simples erreurs accumulées. La lutte pour le pouvoir est terrible dans une ambiance où, d'une part, tout individu et a fortiori toute société a besoin de ce comblement narcissique, et d'autre part, les implications psychologiques des rapports coloniaux et post-coloniaux créent une névrose collective où la subjectivité individuelle tourne autour de l'auto-valorisation et de l'idéal du « moi ». Nous pralchèche la vie yon l'autre côté wo. Les victimes des Makoud sont estimées à 60 000, et beaucoup d'entre elles des femmes victimes de violences conjugales, agressées et violées. Le romancier Franck Étienne met la puce à l'oreille. Il prend la mesure de cette zombification dans son roman « Les affres d'un défi ». La revue haïtienne de santé mentale, RHSM, a bien ouvert une fenêtre sur le parcours complexe de tous ces traumatismes liés à une situation, à un événement, à un climat de violence ou à des difficultés liées à des problèmes quotidiens. De cette violence qui a l'air d'une ritournelle, il en ressort que le traumatisme social qui s'en est résulté consacre le triomphe absolu du relativisme éthique. Ce n'est plus simplement une question de dissonance cognitive, savoir ce qui est le bien mais faire le mal, mais bien la promotion du faux et du mal comme code général des relations approuvées. Au lieu de s'attaquer aux problèmes concrets de la production, en commençant par la production alimentaire, la croisade de la nébuleuse de la recherche identitaire mulâtriste-noiriste s'est révélée un vrai désastre. Jean Price Mars, qui fut parfois à son corps défendant le chantre, pointe l'évolution, avec en avant-première la fuite de la paysannerie. Comment? Le dernier né de l'exclusion a été et est encore l'émigration. Tout a pris de l'eau et le moisi s'est répandu partout. Le modèle économique de la post-colonie mis en œuvre dès 1804 n'a pas permis à Haïti de voler de ses propres ailes. Ainsi, la dégradation est devenue inévitable. Une situation qui va au-delà de la catastrophe. « Opa gen la vie anko »« La vie n'existe plus », comme le dit la chanson. L'économie est en chute libre. L'improvisation en matière de politique économique, avec la promotion de l'industrie d'assemblage, n'a pas donné d'autres options aux dieux et aux hommes. La chanson populaire le dit, « Nous pralchèche la vie yon l'autre côté, wo. Nous partons à la recherche de la vie ailleurs. » En jouant aux dirigeants et en récidivant, la plongée de la jeunesse dans la musique débridée n'aboutit qu'à de fausses notes. Une vraie cacophonie qui donne aux notes de la gamme de cette tonalité un bel avenir. Ce livre dédié Cavé invite à cette réflexion sur l'éthique dans les luttes politiques. Les efforts déployés par l'auteur pour se démarquer des discours identitaires noiristes et mulâtristes le conduisent à ne pas encenser aveuglément le marronnage, notamment celui de la classe, les classes moyennes, a mis à l'honneur avec le nationalisme culturel devant l'échec des élites, lequel échec ayant conduit à l'occupation américaine. On ne le dira jamais assez. C'est justement cette malédiction des griots qui, mutatis mutandis, aboutit à ce mauvais genre dénommé François Duvalier. La classe l'a chouchouté même en se pinçant le nez. L'ensauvagement qui s'en est suivi sous l'influence de la pensée macoute a conduit tout droit au phénomène des gangs d'aujourd'hui. L'être haïtien est en plein désarroi devant cette école de malheur qui ravage. Comme l'explique l'écrivain Gary Klang, pour tenter d'expliquer l'échec haïtien, tâche immensément complexe, il y a en premier lieu les causes que tout le monde connaît. Cet apartheid qui date de la colonie et de l'esclavage. Ce refus de l'autre fondé sur l'absurde question de couleur, ou mieux, de nuances de couleur. Grimaud, Grimel, Chabine, etc. Les racistes semblant ignorer que les humains ont tous la même souche africaine. Chaque rue bruisse d'histoires peu recommandables. Les expressions créoles « lipagenamn » il n'a pas de bon sens, « lipedinamli » il a perdu sa lucidité, « yopranamli » il n'a plus sa conscience, essaie un tant soit peu d'exprimer le désarroi de notre population qui perd la boule et préfère immigrer par tous les moyens. Mais ça passe, tout passe. La recherche d'une image de marque et d'une représentation idéale de soi passe par une critique radicale de la corruption des cerveaux qui ronge Haïti. Eddie Cavé a fait son travail de déchiffrage et de restitution de la vérité avec la gestuelle d'un âge de sagesse. On ne saurait lui demander mieux. Sa maîtrise de ce véritable tissu d'extermination qui nous étreint de Dessalines à Jovenel dévoile bien la filière de cette névrose narcissique collective dont les adeptes font les rêves d'enfer et veulent enfermer les esprits et les corps. En mettant au grand jour les tréfonds de notre intériorité, Eddie Cavé a fait œuvre utile. Puisse son travail contribuer à diffuser une autre musique et revivifier la lutte pour la modernité et la civilisation. C'était Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 7 de 7 », un texte de Leslie Péan paru le 21 janvier 2025 dans Alter Presse.